책임 산행미 고결성
우리 as you come to accept and act upon these values.
대단과
And obey sacred covenants
I vow to love God and body
and enjoy the blessings of exaltation.
Nous sommes très heureuses de vous souhaiter la bienvenue à la réunion générale des jeunes filles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous nous faisions une joie de voir vos visages radieux et de sentir vos beaux esprits. Vous êtes une génération forte et noble en qui nous avons un grand espoir. Le président Gordon B. Hinckley, qui préside cette réunion, m'a demandé à moi, Susan W. Tanner, de la diriger. C'est pour nous un honneur d'avoir avec nous notre prophète bien-aimé, Gordon B. Hinckley, ses conseillers dans la première présidence, Thomas S. Manson et James E. Faust, Jeffrey R. Holland et David A. Bednar du Collège des Douze Apôtres, John B. Dixon et Stephen E. Snow des 70. Chacun de ces dirigeants de la prêtrise a été appelé par le Seigneur à le servir. Sont assises sur l'estrade mes conseillères, Julie B. Beck et Ellen Dalton. Nous sommes reconnaissantes que nos sœurs des présidences générales de la Société de secours et de la primaire, ainsi que les membres du Bureau général des jeunes filles, soient avec nous. La musique de cette réunion sera interprétée par un chœur de jeunes filles de la région de Provo, Utah, sous la direction de Mary Lee Webb avec Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira la réunion en chantant « Je suis enfant de Dieu » avec Mary Wood Lampros, membre de l'orchestre de Temple Square au corps d'harmonie. Ensuite, la prière d'ouverture sera faite par Hilary Olsen, l'auréole du pieu d'Alpine, Utah. Notre cher Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants d'être réunis ce soir dans ce beau centre de conférence et partout dans le monde. Nous te demandons de nous accorder ton esprit à nous tous ici ce soir, afin que nous puissions être touchés par les paroles qui vont nous être adressées. Nous te demandons aussi de nous aider à croire, de renouveler notre désir de suivre ton Fils. Nous sommes tellement reconnaissants, Père, pour ton Fils, pour son sacrifice expiatoire pour chacun d'entre nous. Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir un prophète vivant sur la terre aujourd'hui. Et nous te demandons, Père, de le soutenir, lui et ses conseillères. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que nous, tes filles, recevons chaque jour. Et nous t'aimons et nous te disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
It will now be my opportunity to speak.
M'ont donné de vous adresser la parole. Après mon discours, le chœur chantera If the Savior stood beside me. Notre gendre a dit à sa fille de 3 ans, Elisa, qu'ils allaient avoir une leçon sur un sujet très important pour la soirée familiale. Avec un grand sourire, elle a essayé de deviner ce qu'était cette surprise. Elle a dit « ça doit être moi », a-t-elle déclaré, « parce que je suis très importante ». Elisa se rappelle et sait qui elle est, une enfant de Dieu très importante. Elle a appris cela de sa mère, qui lui a chanté depuis sa prime enfance notre cantique d'ouverture « Je suis enfant de Dieu » en guise de berceuse. Dans le monde entier et dans presque toutes les langues, des jeunes filles de 12 à 18 ans déclarent la même chose. Nous sommes les filles de notre Père Céleste qui nous aime et que nous aimons. Cependant, en grandissant, elles s'éloignent souvent de la confiance, de la connaissance de la petite Elisa de 3 ans, qui sait qu'elles sont très importantes. Les jeunes traversent souvent une crise d'identité. Ils se demandent qui ils sont vraiment. L'adolescence est également une période caractérisée par ce que j'appelle, moi, un vol d'identité. C'est-à-dire que les idées, les philosophies et les tromperies du monde nous troublent, nous attaquent et tentent de nous voler la connaissance de notre véritable identité. Une jeune fille très bonne m'a dit un jour, « Parfois, je ne suis pas sûre de qui je suis. Je ne ressens pas l'amour de mon Père Céleste. Ma vie me semble difficile. Les choses ne s'arrangent pas comme je le voulais, comme je l'avais espéré, comme je l'avais rêvé. Ce que je lui ai dit, je le dis maintenant aux jeunes filles de partout. Je sais, sans ambiguïté, que tu es une fille de Dieu. Il te connaît. Il t'aime et il a un plan pour toi. Et je sais que c'est un message que notre Père Céleste veut que je vous transmette. Les prophètes et les apôtres modernes témoignent de notre nature divine. La déclaration au monde sur la famille indique « Chacun de nous est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes. Et à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. » Et le président Hinckley a également déclaré, « Vous n'êtes pas inférieur à personne. Vous êtes fille de Dieu. Du fait de votre naissance, vous avez reçu quelque chose de beau, de sacré, de divin. Ne l'oubliez jamais. Votre Père éternel est le grand maître de l'univers. Il gouverne tout, mais il écoutera aussi les prières que vous lui adresserez, vous, sa fille, et vous entendra lorsque vous parlerez avec lui. » Il répondra à vos prières. Il ne vous abandonnera pas. Si vous laissez la connaissance que vous êtes fille de Dieu s'ancrer profondément dans votre âme, elle vous réconfortera, fortifiera votre foi et influencera votre conduite. Si vous permettez à cette vérité vertueuse d'orner sans cesse vos pensées, vous aurez de la confiance en la présence de Dieu, comme le promet l'Écriture de notre thème d'échange. Comment chacune d'entre nous peut-elle savoir et ressentir qu'elle est fille de son Père céleste? Il y a un voile entre les cieux et la terre, un assouplissement et un oubli lorsque nous naissons. Cela est nécessaire pour que nous puissions acquérir de l'expérience sur la terre de manière à progresser vers la perfection et réaliser en fin de compte notre destinée éternelle en héritant la vie éternelle. Notre Père Céleste nous aime et veut nous aider à nous souvenir de lui. Il nous donne donc des aperçus de l'éternité. L'apôtre Paul a enseigné, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit nous fait entrevoir qui nous sommes. Souvent, l'Esprit nous parle lorsque nous prions, lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous méditons sur les miséricordes que le Seigneur nous accorde, lorsque nous recevons des bénédictions de la prêtrise, lorsque nous servons les autres, ou lorsque nous nous sentons aimés, appréciés par les autres. Moïse a appris qui il était grâce à une grande expérience spirituelle. Il a parlé avec Dieu face à face et a appris qu'il était fils de Dieu et qu'il avait une mission particulière à accomplir. Après cette expérience, Moïse a été attaqué par Satan. Mais parce qu'il avait ressenti la gloire de Dieu, il s'est aperçu que Satan n'avait pas de gloire. Parce que Moïse savait qu'il était fils de Dieu et que Dieu avait une mission à lui faire faire, il a eu le pouvoir et la capacité de résister à Satan, de juger avec justice, d'implorer Dieu pour recevoir de la force et de continuer d'avoir son esprit avec lui. Il en va de même pour nous. Lorsque nous découvrons et ressentons qui nous sommes vraiment, nous devenons donc capables de faire la différence entre le bien et le mal, et nous obtenons le pouvoir de résister à la tentation. L'une des façons dont nous pouvons comprendre la mission divine que le Seigneur nous a confiée est d'avoir notre bénédiction patriarcale. C'est un message très précis et personnel que nous pouvons toutes recevoir par le pouvoir de la prêtrise. Nous pouvons également recevoir des indications spirituelles sur notre propre nature éternelle par l'intermédiaire de nos parents ou de dirigeants qui peuvent nous rassurer grâce à leur perception inspirée de qui nous sommes vraiment. De temps en temps, l'Esprit m'a murmuré des choses précises au sujet de la véritable identité de mes enfants. Je me souviens que la nuit précédant la naissance de l'un de nos bébés, j'ai eu l'impression distincte qu'il serait un grand ami et une grande aide pour chacun de ses frères et sœurs. Cela s'est avéré être parfaitement vrai. Une autre fois, lorsqu'un de nos enfants adolescents était très abattu à cause de son implication dans un accident de voiture, j'ai distinctement entendu ces paroles dans mon esprit. « J'aime cet enfant et je guiderai sa vie. » Et c'est ce que Dieu a fait. J'ai reçu des perceptions de ce genre de nombreuses fois. Lorsque mes enfants ont eu besoin d'encouragement, j'ai eu la bénédiction d'avoir un aperçu de la grandeur et de la noblesse de leur esprit éternel. Votre mère ou votre père vous ont-ils déjà dit, lorsque vous étiez sur le point de quitter la maison, « Rappelle-toi qui tu es ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Souviens-toi que tu fais partie de cette famille et que tu as une réputation à défendre. Ou également, souviens-toi que tu es enfant de Dieu et que tu dois agir en conséquence. Les missionnaires portent un badge, rappel constant qu'ils représentent l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Cela leur rappelle qu'ils doivent s'habiller avec pudeur et soin, être polis avec les gens et s'efforcer d'avoir le visage empreint de l'image du Christ. Ils doivent faire ces choses parce qu'ils portent ce badge, signe extérieur de leur identité. Par alliance, nous avons nous aussi toutes pris le nom du Christ sur nous. Son nom doit être gravé à l'intérieur, dans notre cœur. De même, nous devons agir en enfants dignes de notre Père céleste, qui, au moins de manière figurative, nous a lancé cette exhortation lorsqu'il nous a envoyés sur la terre. Rappelle-toi qui tu es. Lorsque j'étais appelée à vous servir, vous, les jeunes filles de l'Église, j'ai su que je devais bien me conduire. Un jour, mon appel était un peu comme un badge missionnaire. Un jour, l'une de mes filles a eu une amende pour avoir garé sa voiture dans la rue avec un autocollant d'immatriculation périmé. J'ai pris les choses en main et je suis allée d'un pas décidé au bâtiment des services de la ville pour expliquer que nous attendions le certificat d'immatriculation qu'on nous avait envoyé par la poste. Lorsque j'ai franchi la porte d'un air résolu, quelqu'un m'a dit « Je sais qui vous êtes ». Cela m'a arrêté et m'a rappelé que je devais aussi me rappeler qui je suis. Pas seulement la présidente générale des jeunes filles, mais aussi plus particulièrement une fille de Dieu. Dans nos rapports avec autrui, nous devons nous souvenir que les autres sont aussi enfants de notre Père Céleste. Au début de notre mariage, mon mari me disait assez souvent, « Je ne t'ai pas épousée pour ton physique. » J'ai fini par le taquiner un peu en lui disant que ça n'avait pas l'air très flatteur. Il m'a expliqué ce que je savais en fait déjà, qu'il voulait, par là, me faire le plus grand compliment possible. Il m'a dit, « Je t'aime pour ce que tu es intrinsèquement et éternellement. » Le Seigneur a dit, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dans la famille, les amitiés, le choix des personnes avec qui nous sortons et le mariage, nous ne devons pas seulement considérer la beauté et les compétences, mais plutôt la personnalité, les bonnes valeurs et la nature divine inhérente à chacun. Dans un pieu au Chili, les jeunes filles ont appliqué cela lors d'un camp en notant dans un livre les qualités les unes des autres. Chaque jour, elles faisaient davantage connaissance et notaient la valeur intrinsèque qu'elles voyaient en chacune des autres personnes. À la fin du camp, elles ont fait part de leurs pensées, aidant chaque personne à voir davantage la divinité qui est en elle-même. Leur dirigeante a raconté, « Nous baignons littéralement dans un esprit de gentillesse et de bonne volonté. Je peux dire honnêtement que je n'ai pas entendu les filles se plaindre une seule fois. Elles s'épanouissaient dans un doux esprit d'acceptation mutuelle qui est assez rare parmi les adolescentes. Il n'y avait pas de rivalité. » ni de dispute. Notre camp était devenu un petit coin des cieux. Ces filles ont pris conscience de la nature divine de chacune et l'esprit a rempli ce camp lorsque ces pensées vertueuses ont été exprimées. C.S. Lewis a dit avec sagesse, « C'est une chose sérieuse que de vivre en compagnie de dieux et de déesses potentielles. » De se rappeler que la personne la plus ennuyeuse et la plus inintéressante à qui vous pouvez parler pourra être un jour une créature telle que, si vous la voyez maintenant, vous seriez tenté de l'adorer. Il n'y a pas de gens ordinaires. Votre voisin est l'objet le plus saint présenté à vos sens. Les jeunes filles de partout, qui savent qu'elles et les autres sont filles d'un Père céleste aimant, montrent l'amour pour lui en menant une vie vertueuse, exemplaire, tournée vers le service. Des jeunes filles qui étaient habillées pudiquement dans une région très chaude et humide du Brésil m'ont impressionnée. Elles m'ont dit « La pudeur n'est pas une question de climat, c'est une question de cœur. Ces jeunes filles savent qu'elles sont filles de Dieu. » J'ai été touchée d'entendre parler de la gentillesse de 5 jeunes étudiantes un des derniers jours d'Idaho qui se sont récemment noyées dans un terrible accident. Leurs camarades et leur entourage les connaissaient comme étant des jeunes qui suivaient les principes de la justice et étaient des exemples frappants de vertu et de droiture. Ces jeunes savaient qu'ils étaient filles et filles de Dieu. Cela m'a fait chaud au cœur de voir l'exemple d'une autre jeune fille dont les parents ont divorcé. Elle ne voulait pas que ses frères et sœurs cadets se sentent mal aimés. Alors, elle prie avec eux tous les soirs et leur dit qu'elle les aime. Cette jeune fille sait qu'elle est fille d'un Père céleste qui l'aime. Et elle l'aime en aimant ses frères et sœurs. J'ai été émue d'entendre parler des actions de jeunes filles dans une région du monde touchée par la pauvreté et l'oppression politique. En dépit de leurs propres difficultés, ces jeunes filles ont fait un camp et ont planifié des moyens d'aider les autres. Elles ont fait des trousses de toilettes pour des femmes en difficulté. Elles ont rendu d'autres services dans la collectivité, dans des hôpitaux et chez des gens. Nous savons par leurs actes que ces jeunes filles comprennent leur identité de filles de Dieu. Mon cœur est rempli d'amour pour ces jeunes filles et pour les jeunes filles de partout. Je sais que vous êtes filles de Dieu et qu'il vous aime. En conclusion, j'aimerais vous faire part d'une expérience chère à mon cœur et même sacrée. Lorsque j'ai été appelée à servir comme présidente générale des jeunes filles, j'étais terrifiée et je ne me sentais pas à la hauteur. Je n'ai pas pu dormir pendant de nombreuses nuits. Je m'inquiétais, me repentais et pleurais. Après plusieurs nuits comme cela, j'ai eu une expérience très touchante. J'ai commencé à penser à mes jeunes nièces, puis aux jeunes filles de mon quartier et de ma paroisse. J'ai pensé ensuite aux jeunes filles que je voyais régulièrement au lycée. Puis, j'ai eu la vision des jeunes filles de l'Église à travers le monde, qui sont plus d'un demi-million. Une chaleur merveilleuse a commencé à m'envelopper et à m'envahir. J'ai ressenti un amour immense pour les jeunes saintes des derniers jours de partout, chacune d'entre vous. Et j'ai su que ce que je ressentais était l'amour que notre Père Céleste a pour vous. Il était puissant et absolu. Pour la première fois, j'étais en paix, parce que je savais ce que mon Père Céleste voulait que je fasse. Il voulait que je vous témoigne de son grand amour pour vous. Et je témoigne donc de nouveau que je sais, sans l'ombre d'un doute, que notre Père Céleste vous connaît et vous aime. Vous êtes sa fille précieuse. Il a un plan pour vous et il sera toujours là pour vous diriger, vous guider et pour marcher à côté de vous. Je prie sincèrement pour que vous sachiez et ressentiez cela au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Julie Bebeck, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Elle sera suivie par Hélène Dalton, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Après Sœur Dalton, le chœur chantera « Merveilleux l'amour » avec Kathleen Ellingson du pieu Holladay Sud, Salt Lake City, Utah, à la flûte, et Sarah Edwards du pieu Nord de Salt Lake City à la harpe. Sœur Beck.
Thank you, Young Women Choir, for that beautiful
song. Merci au cœur des jeunes filles.
I am grateful for our Savior.
Je suis reconnaissante à notre Sauveur et de son invitation adressée à nous tous. Venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui. Je voudrais vous communiquer certains de mes sentiments et mes pensées concernant le fait de nous souvenir de lui, de nous repentir et de changer. Je pense que la meilleure façon d'exprimer ce qu'il y a dans mon cœur est de vous parler de trois femmes et des leçons que j'ai apprises de leur histoire. Je commencerai par Ruth May Fox, qui était, il y a longtemps, présidente générale des jeunes filles. Elle a servi dans cet appel jusqu'à l'âge de 84 ans. Sœur Fox est née en Angleterre, et à 13 ans, elle a parcouru à pied presque toute la distance jusqu'à la vallée du lac Salé avec un groupe de pionniers. Sa mère est morte quand elle était bébé. Elle a donc vécu les 12 premières années de sa vie dans beaucoup de familles différentes. Elle a dû être une enfant difficile parce que sa grand-mère l'appelait « mauvaise fille » et a refusé de s'occuper d'elle. Finalement, Ruth s'est mariée et a eu 12 enfants. Elle a rendu son témoignage ferme à ses enfants et travaillant à leur côté, leur enseignait des leçons de l'Évangile, mais elle reconnaissait que ses enfants aînés avaient parfois été sévèrement disciplinés parce qu'elle s'emportait facilement et ne comptait pas toujours jusqu'à 10 lorsqu'on la provoquait. Elle a fait de grands efforts pour surmonter cette faiblesse et elle a fini par être connue pour son bon cœur et sa serviabilité. Sœur Fox a vécu jusqu'à 104 ans. Dans sa longue vie, elle a connu de grandes joies et des épreuves difficiles et elle a enseigné « La vie apporte des leçons dures. Les plantes les plus résistantes ne se cultivent pas sous verre et la force de la personnalité ne s'acquiert pas en évitant les problèmes. » L'année dernière, j'ai escaladé Independence Rock au Wyoming pour trouver l'endroit où, à 13 ans, elle avait gravé son nom au cours de son voyage vers la vallée du lac Salé. Les intempéries des 140 dernières années l'ont presque effacée, mais j'ai réussi à déchiffrer Ruth, mai 1867. J'ai voulu en savoir plus sur cette grande dirigeante et disciple de Jésus-Christ qui a travaillé toute sa vie à s'améliorer et dont la devise était « Le royaume de Dieu ou rien ». Ensuite, il y a l'histoire d'une femme que j'appellerai Marie. Elle était la fille de fidèles parents pionniers qui avaient sacrifié beaucoup pour l'Évangile. Elle s'était mariée au Temple et était la mère de 10 enfants. C'était une femme talentueuse qui a enseigné à ses enfants à prier, à travailler dur et à s'aimer les uns les autres. Elle payait la dîme et les membres de la famille se rendaient aux réunions du dimanche ensemble dans leur chariot. Bien qu'elle sache que c'était contraire à la parole de sa jeunesse, elle a pris l'habitude de boire du café et garder une cafetière sur l'arrière de son fourneau. Elle affirmait « Le Seigneur ne m'empêchera pas d'entrer au ciel à cause d'une petite tasse de café. » Mais à cause de cette petite tasse de café, elle ne pouvait pas se qualifier pour obtenir une recommandation à l'usage du temple, ni ceux de ses enfants qui buvaient du café avec elle. Bien qu'elle ait vécu jusqu'à un âge avancé et fini par se qualifier pour entrer de nouveau au temple et y servir, un seul de ses 10 enfants a eu un mariage digne au temple. Et un grand nombre de sa postérité, dont c'est maintenant la 5e génération, vit privée des bénédictions de l'Évangile rétabli auquel elle croyait et pour lequel ses ancêtres ont fait tant de sacrifices. La dernière histoire est celle de Christina, qui avait été baptisée et scellée à sa famille quand elle était petite, mais dont la famille avait cessé de vivre l'Évangile. Elle était maintenant à la fin de l'adolescence. Elle avait fait de mauvais choix et elle était très malheureuse. Un jour, je lui ai donné le manuel, mon progrès personnel, et je lui ai dit, « Ce manuel t'aidera à intégrer dans ta vie les qualités du Christ pour que tu puisses faire les changements que tu désires. Je t'invite à commencer à travailler sur ton manuel aujourd'hui et à l'apporter ensuite avec toi ce soir, à la veillée pour les jeunes, pour me dire ce que tu as appris. » Ce soir-là, elle a dit, les larmes aux yeux, « Aujourd'hui, j'ai commencé mon progrès personnel. » Depuis ce jour, elle m'a écrit plusieurs fois. Elle a commencé à retourner aux réunions du dimanche, aux activités d'échange et aux séminaires. Deux semaines plus tard, sa sœur et sa mère sont allées à l'église avec elle. Et plus tard, le père s'est joint à elle et maintenant toute la famille est retournée au temple ensemble. Alors, quelles sont les leçons que j'ai apprises de ces histoires concernant le fait de nous souvenir, de nous repentir et de changer? La première leçon est que tout le monde commet des fautes. Il n'y a pas longtemps, je me trouvais avec une fillette de 8 ans le jour de son baptême. À la fin de la journée, elle a déclaré avec une grande confiance, « Je suis baptisée depuis toute la journée et je n'ai pas péché une seule fois. » Mais sa journée parfaite n'a pas duré éternellement. Et je suis sûre que maintenant, elle apprend, comme nous tous, que malgré tous nos efforts, nous n'évitons pas toujours toutes les mauvaises situations, tous les mauvais choix, et que nous ne nous maîtrisons pas comme nous devrions. J'entends souvent parler de la génération royale choisie de cette dispensation, mais je n'ai jamais entendu appeler la génération parfaite. Les adolescents sont particulièrement vulnérables parce que le pouvoir de Satan est réel et qu'ils font leur premier grand choix indépendant. Par conséquent, ils commettent aussi leur première grande faute. C'est ce qui est arrivé à Corianton dans le livre de Mormon. Corianton était censé accomplir fidèlement une mission, mais il s'est cru assez fort et assez intelligent pour maîtriser des situations risquées et de la mauvaise compagnie. Et il s'est attiré de graves ennuis et a commis un grand péché quand il a commencé à aller au mauvais endroit avec de mauvaises personnes et à faire de mauvaises choses. Ma seconde leçon est que le repentir n'est pas facultatif. Il nous est commandé de nous repentir. Le Sauveur a enseigné qu'à moins que nous nous repentions et nous devenions semblables à un petit enfant, nous ne pouvons en aucune façon hériter le royaume de Dieu. Nous ne devons pas permettre qu'une seule petite tasse de café, une mauvaise habitude, un mauvais choix, une mauvaise décision nous fasse dérailler pour toute la vie. Parfois, les gens prennent le repentir à la légère. J'ai entendu des gens dire que c'est trop dur de se repentir. D'autres disent qu'ils en ont assez de se sentir coupables ou qu'ils ont été offensés par un dirigeant qui les aidait à se repentir. Parfois, les gens baissent les bras quand ils ont commis des fautes et croient qu'il n'y a pas d'espoir pour eux. Certaines personnes s'imaginent qu'elles se sentiront mieux dans leur peau si elles abandonnent tout simplement l'évangile rétabli et s'en vont. C'est Satan qui met des idées désespérées dans le cœur des gens qui ont commis des fautes. Le Seigneur nous donne toujours de l'espoir. Il dit, « Tu as été choisi pour accomplir l'œuvre du Seigneur. » Mais tu tomberas pour cause de transgression si tu n'y prends pas garde. Mais souviens-toi, Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi repens-toi de ce que tu as fait de contraire au commandement que je t'ai donné. Tu es toujours celui que j'ai choisi et tu es de nouveau appelé à l'œuvre. Le chemin le plus rapide, le plus facile vers le bonheur et la paix est de nous repentir et de changer dès que nous le pouvons. La leçon numéro 3 est nous ne réussissons pas seuls. Il n'est pas possible de faire un vrai changement tout seul. Notre volonté et nos bonnes intentions ne suffisent pas. Quand nous commettons des fautes ou faisons de mauvais choix, il nous faut l'aide de notre Sauveur pour revenir sur la bonne voie. Semaine après semaine, nous prenons la Sainte Cène pour montrer notre foi et en son pouvoir de nous changer. Nous confessons nos péchés et promettons de les délaisser. Lorsque tous nos efforts ne suffisent pas tout à fait, c'est par sa grâce que nous recevons la force de continuer d'essayer. Le Seigneur déclare, « Si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. Je donne aux hommes de la faiblesse afin qu'ils soient humbles. Et ma grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient devant moi. Car s'ils s'humilient devant moi et ont foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. Quand nous recherchons l'aide du Seigneur pour changer, alors nous avons cette promesse. Voici celui qui s'est repenti de ses péchés et pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. Le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. La joie et la paix que nous recevons quand nous savons que nous avons été pardonnés sont une bénédiction divine. Cette paix nous est donnée au moment voulu par le Seigneur et à sa façon, mais elle nous est donnée effectivement. Ma dernière leçon est que nous pouvons changer. Chaque jour est une nouvelle occasion de nous souvenir de notre Sauveur et de suivre son exemple. Sans le repentir, nous ne pouvons pas progresser. C'est pourquoi le repentir est le deuxième principe de l'Évangile. Au lieu de chercher des excuses à une faiblesse, nous travaillons chaque jour à prendre de bonnes habitudes et cultiver des qualités chrétiennes. Spencer W. Kimball, ancien président de l'Église, a dit « Cultiver des qualités chrétiennes est une tâche exigeante et incessante. Elle n'est pas pour le travailleur saisonnier ou pour les personnes qui ne veulent pas donner leur maximum encore et encore. J'ai appris de Christina que l'acquisition de qualités chrétiennes dans notre vie est un signe que nous sommes en train de changer. » Parce que nous sommes tous mortels, nous commettons tous des fautes. Le repentir n'est pas facultatif, mais nous ne le faisons pas seuls. Nous avons un Sauveur pour nous aider à nous repentir. En acquérant ces qualités, nous savons que nous faisons des changements qui nous aident à nous rapprocher de lui. Sœur Fox a déclaré que l'Évangile était son manteau de protection contre la tentation, sa consolation dans le chagrin, sa joie et sa gloire tout au long de ses jours, et son espérance de vie éternelle. Elle a adopté la devise « Le royaume de Dieu ou rien », parce qu'elle savait qu'en embrassant l'Évangile de tout son cœur, elle pouvait recevoir la promesse que le Sauveur nous a faite à tous. Quiconque se repent et est baptisé en mon nom sera rassasié. Et s'il persévère jusqu'à la fin, voici, je le tiendrai pour innocent devant mon Père en ce jour où je me tiendrai pour juger le monde. C'est par le repentir que j'ai appris à connaître le Sauveur, et c'est en lui demandant son aide pour changer que ma foi et ma dépendance de lui augmentent. Je rends témoignage de sa réalité et de son pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Thank you, Sister Beck. I love these virtuous women.
Sur l'un des sentiers, dans des gorges près de chez moi, il y a un panneau qui avertit « Restez sur le chemin ». En s'engageant sur ce sentier, il devient vite très clair qu'il s'agit d'un conseil avisé. Il y a des collines, des tournants et des pentes abruptes. À certains endroits, le sol au-delà du sentier est instable, et en certaines saisons de l'année, il arrive qu'on croise des serpents à sonnette. Ce soir, mon message à chacune de vous est le même que celui du panneau. Restez sur le chemin. Il y a quelques années, je suis allée faire une randonnée avec un groupe de jeunes filles dans les montagnes Teton au Wyoming. C'était un sentier difficile et le deuxième jour, nous sommes arrivés à l'endroit le plus dangereux de la randonnée. Nous allions marcher le long du col de l'ouragan, ainsi appelé à juste titre, à cause des forts vents qui y soufflent presque toujours. Un garde nous a conseillé de rester au milieu du chemin, de nous tenir aussi bas que possible sur la partie exposée du sentier, de tout bien ranger dans nos sacs à dos et de nous déplacer rapidement. Ce n'était pas un endroit pour prendre des photos ou pour nous attarder. J'ai été soulagée et heureuse lorsque chacune des jeunes filles a eu réussi à traverser cet endroit. Et savez-vous que pas une seule n'a demandé de combien elle pouvait s'approcher du bord? Parfois, en parcourant les chemins de la vie, nous voulons nous attarder dans des endroits dangereux, en pensant que c'est amusant et palpitant et que nous maîtrisons la situation. Parfois, nous pensons que nous pouvons vivre sur le bord tout en gardant notre vertu. Mais c'est un endroit risqué. Comme nous l'a dit Joseph Smith, le prophète, le bonheur est l'objet et le but de notre existence et en sera la fin si nous suivons le chemin qui y mène. Et ce chemin, c'est la vertu. Le conseil du Seigneur à Emma Smith dans les Doctrines et Alliances, section 25, est son conseil à toutes ses filles précieuses. On nous y donne un code de conduite et le conseil de marcher dans les sentiers de la vertu. La vertu est un mode de pensée et de conduite basé sur des principes moraux élevés. Alors, quels sont ces principes moraux élevés qui nous aident à être vertueuses? La vertu comprend la pudeur de pensée, de langage, dans la tenue vestimentaire et dans le comportement. Et la pudeur est le fondement de la chasteté. Tout comme l'on ne se promène pas pieds nus sur des sentiers peuplés par des serpents à sonnette, de même, dans le monde actuel, la pudeur est essentielle pour notre sécurité même. Quand nous sommes pudiques, nous montrons aux autres que nous comprenons notre relation avec notre Père Céleste, nous qui sommes ses filles. Nous prouvons que nous l'aimons et que nous voulons être ses témoins en toutes choses. Si nous sommes pudiques, nous montrons aux autres que nous chérissons la vertu. La pudeur n'est pas une question d'être branché. C'est une question de cœur et de sainteté. Cela ne concerne pas le fait d'être à la mode. Cela concerne la fidélité. Cela ne concerne pas le fait d'être cool. Cela concerne la chasteté et le respect des alliances. Cela ne concerne pas la popularité, mais la pureté. La pudeur est essentielle pour garder nos pas solidement sur le chemin de la chasteté et de la vertu. Il est clair que la vertu est une condition nécessaire à l'exaltation. Moroni nous aide à comprendre que la vertu ainsi que la chasteté sont ce que nous avons de plus cher et de plus précieux. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d'être désinvoltes ou nous approcher trop près du bord. C'est un terrain dangereux où aucune fille de Dieu ne devrait s'aventurer. Les Doctrines et Alliances à la section 25 nous disent que nous devons nous attacher aux alliances que nous avons contractées. S'attacher signifie pour moi coller, adhérer, et vraiment nous accrocher de toutes nos forces aux promesses que nous avons faites au Seigneur. Nos alliances nous donneront la force de résister à la tentation. Le respect de nos alliances nous maintiendra sur le chemin de la vertu. En respectant les alliances que nous avons contactées au baptême, nous resterons au milieu du chemin. Jeffrey Holland nous rappelle, en commençant par notre baptême, nous faisons des alliances tandis que nous suivons le chemin vers la vie éternelle. Et c'est en respectant nos alliances que nous restons sur le chemin. Les murmures du Saint-Esprit seront toujours suffisants pour nos besoins si nous restons sur le chemin des alliances. Notre chemin monte la plupart du temps. Mais l'aide que nous recevons pour cette ascension est littéralement divine. Il y a trois membres de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui nous aident en raison des alliances que nous avons contractées. Pour nous souvenir de ces alliances, nous prenons la Sainte Cène chaque semaine. Lors de la prière faite pour le pain, les membres de l'Église témoignent au Père éternel qu'ils veulent prendre sur eux le nom de son Fils, se souvenir toujours de lui et garder les commandements qu'il leur a donnés, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Guidée par l'Esprit de Dieu, vous serez confiante et heureuse, et la vertu ornera sans cesse vos pensées. Le livre de Mormon décrit ce qui s'est passé quand toute une société a respecté ses alliances et mené une vie pure et vertueuse. Et assurément, il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. Guidé par le Saint-Esprit, vous aussi exercerez une influence bénéfique sur d'autres. Dans mon bureau, j'ai les photos des générations de femmes de ma famille, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère et ma fille Amy. Leur vie d'engagement et de foi au plan m'a aidée à monter plus haut et à voyager plus loin. En regardant cette image maintenant, je vois très clairement l'importance de mener une vie vertueuse. Actuellement, j'ai non seulement une fille, mais 5 belles filles et 5 jeunes petites filles à ajouter à cette image. Je ressens la profonde responsabilité de vivre devant elle une vie exemplaire de vertu et de sainteté. Même si vous êtes les premières dans la lignée de générations à venir, vous aussi avez une responsabilité envers ceux qui vous suivront. Récemment, j'ai refait la même randonnée dans les montagnes Teton dont j'ai parlé auparavant, mais cette fois avec mon mari et un groupe d'amis de notre âge. Au début, c'était exaltant et facile, mais avant d'arriver à notre destination, nous étions épuisés et je me suis rendu compte que j'étais en difficulté. Je n'étais pas aussi préparée pour cette randonnée que je l'avais été il y a des années avec les jeunes filles. J'avais rempli mon sac à dos négligemment et j'avais pris trop de choses. Le poids de mon sac à dos commençait à me fatiguer et à me donner l'envie d'abandonner. Les autres ressentaient aussi les rigueurs de l'altitude, du terrain escarpé et du poids des sacs à dos. Mon mari s'en est rendu compte et s'est dépêché d'avancer. Je me suis sentie abandonnée. Cependant, au bout d'environ une heure, je l'ai vu descendre le sentier de l'autre côté de la vallée. Il courait vers moi. Lorsqu'il est arrivé à moi, il a pris mon sac à dos, essuyé mes larmes et m'a mené à la destination, un lac d'eau limpide entouré de pins. Puis il a fait demi-tour, a redescendu le sentier et a fait la même chose 4 autres fois pour les autres randonneurs. En le regardant, j'étais désolée de tant manquer de préparation et encore plus désolée d'avoir tellement de choses inutiles dans mon sac à dos qui ont ajouté au poids qu'il avait dû porter pour moi. Mais j'étais si reconnaissante de sa force, de son altruisme, de sa préparation et de son amour. En escaladant les montagnes de la vie, restez sur le chemin de la vertu. Il y aura d'autres personnes pour vous aider, vos parents, des membres de votre famille, des évêques, des consultantes et des amis justes de tout âge. Et si vous êtes épuisé ou si vous vous trompez de route, changez de direction et revenez sur le chemin de la vertu. Souvenez-vous toujours que le Sauveur est là pour vous. Il vous donnera la possibilité de vous repentir. Il vous fortifiera, allégera vos fardeaux, essuiera vos larmes et continuera à vous aider à rester sur le chemin. Le Sauveur est l'exemple parfait de la vertu. Quand Jésus parcourait les routes de la Palestine, il allait de lieu en lieu faisant le bien. Il guérissait les malades, rendait la vue aux aveugles et ramenait les morts à la vie. Il enseignait les vérités de l'éternité, la réalité de notre existence prémortelle, le but de notre vie ici-bas et notre potentiel de fille de Dieu dans la vie à venir. L'une de mes écritures préférées est « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je témoigne que c'est vrai. Il a non seulement indiqué le chemin, mais également parfois, il m'a même mené par la main. Sa voie est le chemin qui mène au bonheur dans cette vie et à la vie éternelle dans le monde à venir. Je vous rends témoignage qu'il vit. Il entendra vos prières et guidera vos pas. Jésus-Christ est notre modèle et notre guide. Restez sur le chemin. Soyez pudiques. Restez fidèles à vos alliances et soyez dignes de la compagnie du Saint-Esprit. Le Seigneur promet, prenez courage car je vous guiderai le long du chemin. Le royaume est à vous. Ses bénédictions sont à vous. Et les richesses de l'éternité sont à vous. Oui, je suis stupéfaite par sa vie sans égale et par la vertu infinie de son grand sacrifice expiatoire. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris la parole ou interprété la belle musique ce soir. Nous aurons maintenant la bénédiction d'entendre le président Hinckley, notre prophète bien-aimé. Après les propos du président Hinckley, cette réunion prendra fin avec le chœur et l'assemblée qui chanteront « Soyons l'espoir des derniers jours ». Ensuite, Rosanne Bassett, l'auréole du pieu de Jordan Nord, Salt Lake City, fera la prière de clôture, président Hinckley.
My dear young women,
mes chères jeunes filles, quel merveilleux spectacle que de vous voir dans cette grande salle. Vous êtes accompagnées de vos mères et de vos instructrices et de vos grands-mères. À l'extérieur de ce centre de conférence, des centaines et des milliers d'autres sont rassemblés à travers le monde. Elles vont nous entendre dans plus d'une vingtaine de langues. Notre discours sera interprété dans leur langue maternelle. L'occasion de vous parler constitue une énorme responsabilité. Mais c'est également une occasion merveilleuse. Je prie pour que le Saint-Esprit me dirige dans ce que je vais dire. D'autres l'ont traité avec éloquence du thème de cette réunion. Je ne fais que le mentionner. C'est la parole du Seigneur révélée qui se trouve à la 121e session des Doctrines et Alliances. Elle dit que la vertu orne sans cesse tes pensées. Alors ton assurance viendra grande dans la présence de Dieu. Et la doctrine de la prêtrise se distillera sur ton âme comme la rosée des cieux. Le Saint-Esprit sera ton compagnon constant et ton sceptre, un sceptre immuable de justice et de vérité. Et ta domination sera une domination éternelle. Et, sans moyen de contrainte, elle affluera vers toi pour toujours et à jamais. Pourrait-il y avoir plus grande promesse que ces paroles remarquables révélées par le Seigneur? Ce sont les paroles de Dieu données par révélation à Joseph le prophète. Elles contiennent une promesse magnifique pour tous les gens qui font en sorte que la vertu orne sans cesse leurs pensées. Jeunes filles, vous êtes au seuil de la vie. Vous êtes suffisamment âgées pour avoir été baptisées. Vous êtes suffisamment jeunes pour que le monde futur dont vous rêvez se trouve encore devant vous. Chacune de vous est enfant de Dieu. Chacune de vous est une création de la divinité. Vous êtes littéralement fille du Tout-Puissant. Il n'y a aucune limite à votre potentiel. Si vous prenez votre vie en main, l'avenir est rempli de possibilités et de joie. Vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller vos talents ou votre temps. Vous avez de grandes possibilités qui vous attendent. Je vais maintenant vous proposer une recette très simple qui assurera votre bonheur si vous la suivez. C'est un programme simple en 4 points. Le voici. Premièrement, priez. Deuxièmement, étudiez. Troisièmement, payez votre dîme. Et quatrièmement, assistez à vos réunions. Premier point, la prière personnelle. Vous êtes fille de notre Père Céleste. Il est votre parent céleste. Parlez avec lui. Soir et matin, mettez-vous à genoux et exprimez-lui la gratitude de votre cœur. Parlez des bénédictions que vous désirez et dont vous avez besoin. N'oubliez jamais que cette Église a commencé par l'humble prière du jeune Joseph Smith dans le bosquet de la ferme de son père. C'est de cette expérience remarquable que nous appelons la première vision que découle cette œuvre qui est implantée aujourd'hui dans 160 pays et qui compte plus de 12 millions de membres. C'est la concrétisation même de la vision de Daniel, de la pierre détachée de la montagne sans l'aide d'aucune main, qui roule jusqu'à remplir la terre entière. Non seulement vous pouvez faire vos prières personnelles, mais vous pouvez inviter vos parents à faire la prière en famille, s'ils ne la font pas déjà. La prière est le pont par lequel nous approchons notre Père Céleste. Elle ne coûte rien. Elle exige seulement de la foi et un effort. Il n'est rien de plus fécond que de se mettre à genoux pour prier humblement. C'est un signe d'amour pour la divinité, de qui provient tout ce qui est bon. C'est un signe de respect de soi. Il n'y a rien de tel. C'est une communication personnelle avec Dieu. Le deuxième point de ma liste est l'étude. Que contient ce mot tout simple de 6 lettres? Il y a d'abord l'étude des Écritures. Vous pourriez seulement lire des parties d'Ancien Testament, mais il contient de grandes leçons. Le Nouveau Testament est une mine d'or. Il contient les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ainsi que les Actes des apôtres et d'autres écrits. Essayez de lire ne serait-ce qu'un évangile, peut-être le livre de Jean. Quand vous l'avez fini, prenez le livre de Mormon. Il y a 2 ans, j'ai invité l'Église entière à lire le livre de Mormon avant la fin de l'année. Je suis ébahi du nombre de gens qui ont répondu à cette invitation. Tous ceux qui l'ont fait ont été bénis par leur effort. En se plongeant dans ce témoin supplémentaire de notre Rédempteur, ils ont eu leur cœur vivifié et l'esprit touché. Certains d'entre vous étaient trop jeunes pour l'avoir lu alors. Mais vous n'êtes pas trop jeunes pour commencer à le lire maintenant. En plus de l'étude religieuse, il y a la question des études profanes. Prenez, dès maintenant que vous êtes jeune, la résolution de faire le plus possible d'études. Nous vivons une époque de grande concurrence, et cela ne va faire que s'accentuer. Ce sont les études qui vous ouvriront les portes du succès. Vous pouvez envisager le mariage et l'espérer, mais vous n'êtes pas certaine que cela viendra. Et même si vous vous mariez, les études vous seront très profitables. Ne vous laissez pas simplement emporter par le courant, en laissant le temps passer sans faire quelque chose de votre vie. Le Seigneur vous bénira si vous faites l'effort. Le fait que votre esprit s'ouvre à de nouvelles perspectives, à de nouvelles connaissances, enrichira votre vie et élargira vos horizons. Le point suivant est le paiement de la dîme. Le Seigneur fait une promesse merveilleuse à ceux qui paient leur dîme. Il dit, dans la révélation moderne, qu'ils ne seront pas brûlés. Sa grande promesse est rapportée dans les paroles de Malachie. Il dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. » Et vous dites, « En quoi t'as-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Apportez à la maison des trésors toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture de ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il ajoute alors quelque chose de très intéressant. Écoutez. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Fin de citation. La dîme se paie avec de l'argent, mais chose plus importante, elle se paie avec de la foi. Je n'ai jamais rencontré de personne ayant payé une dîme honnête qui était eue à s'en plaindre. Au contraire, s'il a fait confiance au Seigneur, le Seigneur ne l'a jamais déçu. Quand j'étais petit garçon, chaque mois de décembre, mon père nous emmenait tous chez l'évêque, frère Duncan, en face de chez nous, pour le règlement de la dîme. L'évêque n'avait pas de bureau dans le bâtiment de la paroisse. Il devait donc traiter les affaires chez lui. Nous asseyions tous dans sa salle de séjour et nous invitait un à un dans la salle à manger. Notre dîme pouvait être de 25 cents ou de 50 cents, mais c'était une dîme complète. Il faisait un reçu et notait la somme dans le registre de la paroisse. La somme pouvait être si petite que cela coûtait plus de l'enregistrer que la valeur qu'elle représentait. Mais cela créait une habitude qui allait continuer au cours de toutes ces années. Le paiement de la dîme s'est accompagné d'innombrables bénédictions, comme le Seigneur l'a promis. Je me suis marié pendant la dépression, quand l'argent manquait. Mais nous avons payé notre dîme. Et il se trouve que nous n'avons jamais eu faim, nous n'avons manqué de quoi que ce soit de nécessaire. Le quatrième point, assistez à vos réunions de Sainte-Seine. Rien ne remplace la participation à la scène du Seigneur. C'est une entreprise solennelle, sacrée et merveilleuse que de pouvoir prendre le pain et l'eau en souvenir du corps et du sang du Sauveur de l'humanité. Aucun autre événement de l'histoire humaine n'est aussi important que le sacrifice expiatoire de notre divin Rédempteur. Rien ne peut s'y comparer. Sans lui, la vie serait sans signification. Ce serait une impasse. Avec lui, nous avons l'assurance de la vie éternelle. La mort n'est pas la fin, mais le passage vers l'existence plus glorieuse. Tout cela est symbolisé dans la participation à la Sainte Cène. Toutes les autres parties de nos réunions sont de peu d'importance en comparaison du fait de prendre les emblèmes du sacrifice de notre Seigneur pour nous. Je vous promets que si vous faites ces quatre choses, votre vie sera fructueuse, que votre bonheur sera grand, que vos réalisations seront considérables et vous apporteront de la satisfaction à tout point de vue. Puisse le Seigneur vous bénir, mes chères jeunes sœurs. Puisse ses bénédictions vous accompagner en tout temps et dans toutes les situations. Nous vous aimons et nous prions pour vous. Puisse le ciel sourire sur vous. C'est là mon humble prière. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Notre cher Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissantes d'avoir eu l'occasion de participer à cette merveilleuse conférence aujourd'hui. Nous sommes tellement reconnaissantes pour nos dirigeantes et l'inspiration qu'elles nous ont donnée. Nous sommes reconnaissantes de nos dirigeantes de paroisses et de pieux qui nous permettent de comprendre comment nous devons vivre. Nous sommes reconnaissants d'avoir le prophète, des dirigeants, et nous te demandons de les bénir. Nous connaissons leur amour. Nous te demandons aujourd'hui de nous aider à avoir le courage de mettre ces choses en pratique dans notre vie, ce qui nous a été enseigné. Aide-nous à savoir que tu nous aimes, afin que nous puissions être fortes. Nous te demandons de nous aider à avoir la vertu, ornant nos pensées sans cesse. Nous sommes tellement reconnaissantes d'être membres de l'Église. Et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.